Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. Cette semaine, je suis évidemment avec Martin, mais encore une fois, on a des stagiaires 3e et même un peu plus haut, stagiaires 1e dans la salle. Donc c'est une émission en public et évidemment dans le public, il y a une invitée un peu particulière, tu l'as dit la semaine dernière, il y a ma fille.
Eh oui Maxime,
deux Dupuis pour le prix d'un.
C'est deux de trop.
C'est deux de trop.
Deux de trop, mais il y a un truc particulier dans cette émission, je me suis rendu compte de ça en venant, c'est que cette semaine, j'ai l'impression d'avoir deux enfants dans la salle. J'ai l'impression de les avoir tous les deux accueillis à la vie d'une certaine manière. J'ai Martin, que j'ai accueilli en 2007 à Eurosport.
C'est vrai.
Et ma fille qui est née en 2008.
Ah, c'est vrai.
Donc au fond, j'ai l'impression que je vous ai vu grandir tous les deux, qu'il y a une évolution parallèle.
Tu me faisais faire mon petit rôle, tout ça. Alors, ouais, c'était tout pareil.
Et ça m'a donné envie de faire un petit jeu.
Vas-y.
Façon Burger Quiz. Tu connais le jeu Martin, ma fille ou les deux?
Oui.
Donc j'ai envie de faire ça avec toi.
D'accord.
Et je vais te poser des questions, enfin te faire des affirmations.
Tu vas pas parler de mes couches, j'espère, Maxime.
Je vais te faire des affirmations et tu vas me dire, justement, Martin, enfin moi, ma fille ou les deux.
D'accord, vas-y.
C'est parti.
Vas-y.
Ne mange pas de légumes.
Ta fille.
Bah, j'aurais dit les deux.
Non, je mange des légumes quand même, Maxime. Ça se voit peut-être pas, mais je mange un petit peu de légumes quand même.
J'ai réussi à lui mettre un livre entre les mains.
Les deux.
Ah non, ma fille.
Parce que j'ai quand même acheté ton bouquin Les Grands Récits.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Donc c'est les deux.
Je lui ai appris à écrire.
Bah, ta fille, quand même.
Non, aucun.
Ah bah, quand même, non.
Bah, non, mais c'est débrouillé. C'est plus ma femme, mais même si on a mis un peu le pied à l'étrier. Écoute mes conseils.
Ta fille. Sinon, j'en serais pas là aujourd'hui.
Bon, les deux, quand même. Passe trop de temps sur son téléphone.
Ta fille.
Les deux.
Mais non.
Mets des sweats à capuche et des baskets.
Les deux.
Ouais. Se couche trop tard.
Sans doute les deux.
Ouais. Ne range pas ses affaires.
Les deux.
Est supporter du plus grand club français.
Bah, c'est moi.
C'est
une question de goût.
Non, c'est moi.
Et enfin, a une passion dévorante pour le Massif Central.
Les deux.
Voilà.
Les deux.
Effectivement, Maxime. Bien vu. On a quelques points communs avec ta fille.
Il y a quelques
fille,
points communs. Bah ouais, l'âge déjà.
Ouais, c'est vrai, l'âge. Et alors, est-ce que tu l'excèdes autant que tu m'excèdes le vendredi? C'est possible ou pas ça? Non, je suis sûr qu'il y a une bonne relation entre ta fille et toi.
Ah bah oui. Ouais. Il faudra lui demander après. Mais c'est vrai que
elle est là, mais elle pourrait pas parler, elle est trop timide.
Non, elle parlera pas, mais je pense que si tu lui demandes, elle te dira vraiment. Non, mais je suis beaucoup moins caricatural qu'ici.
Ah bah j'espère, parce que putain, sinon je plains vraiment. Mais vraiment. Alors là, on imagine les repas chez les Dupuis.
Non mais là, je crois que tu viens de tuer l'oreille d'Adrien quand
t'as pardon, avancé. Excuse-moi, j'ai parlé trop fort. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir d'accueillir des stagiaires de 3e, même s'il y en a un aujourd'hui. Je suis particulièrement du mal. J'ai du mal avec lui, je le connais depuis 5 minutes, mais j'avoue qu'il m'excède un petit peu. Mais sinon, tout se passe bien. Sinon, tout va bien.
Eh ben, on a quand même une émission.
Mais avec ta fille, ça fait bizarre.
Ouais.
J'ai l'impression d'effectivement d'avoir un petit peu mon double.
Ah,
parce que, est-ce que Maxime,
ouais.
Je ne suis pas le fils que tu rêvais d'avoir?
Ah, c'est une bonne question. Alors, il va me falloir un peu plus de temps pour réfléchir. Je sais pas.
Eh ben, grand frère, j'aurais été classe quand même, j'aurais été bien. Je suis sûr que j'aurais été un bon grand frère moi-même.
Ah oui, ça j'en doute pas.
Ouais.
Mais ça dépend ce que tu mets derrière bon.
Non, mais si, évidemment.
Bon, on a quand même une émission.
On en a une, vas-y.
L'émission est donc, vous pouvez la retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, les mauvaises aussi, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google, Acast, tout ce que vous voulez. Donc vous nous notez, vous mettez 5 étoiles, évidemment, et vous vous abonnez, comme ça vous avez la prochaine émission directement sur votre smartphone. Pas besoin de faire d'efforts, c'est plutôt bien.
Ouais, exactement. Partisan du moindre effort, comme Eve et moi, du coup, si j'ai bien compris ton test du début d'émission.
Non.
Trois sujets aujourd'hui, on va démarrer évidemment avec Christophe Galtier. On va se poser cette question très simple, très cash, très directe. Est-ce qu'il faut le virer? avant le huitième de finale retour face au Bayern Munich. Deuxième sujet, Maxime.
On va revenir à mercredi dernier, donc un jour après PSG Bayern, il y avait Arsenal City. City qui a donné la leçon à Arsenal à l'Emirates Stadium, une victoire 3-1. City est repassé devant. Est-ce que le titre s'est joué là? Est-ce que le titre s'est envolé pour du côté de Manchester?
Et on terminera avec Olivier Giroud qui a rappelé cette semaine qu'il avait envie de continuer en équipe de France. Varane, Benzema et Lloris sont arrêtés. Lui a 36 ans et on va se poser cette question. Est-ce qu'il a raison de s'accrocher au bleu, Olivier Giroud? Let's go.
Eh ben on y va.
Maxime, je sens qu'il est déstabilisé.
Non.
Il voit sa fille, il dit... Il ne faut pas que je déconne, parce que d'habitude, là, c'est déjà orgie de gros mots. Mais là, comme il a sa fille, il dit, il faut que je me tienne à carreau, on va y aller tout doucement, hein, on va faire la bouche en cul de poule. Ouais. Allez, Maxime, il y a une émission à faire, vas-y, je t'écoute.
C'est parti.
Vas-y.
On y va pour le premier sujet.
Ouais.
Battu par le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions en huitième de finale aller, le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà dans une position difficile en vue d'une potentielle qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. Et il y en a un autre qui est dans une position encore plus difficile, c'est évidemment son entraîneur Christophe Galtier. Il vient d'enchaîner 3 défaites de suite, c'était plus arrivé au PSG depuis plus d'une décennie. Et on sent une petite musique qui est en train de monter, évidemment, c'est la rançon de la gloire, la rançon d'un club comme le Paris Saint-Germain. Que Christophe Galtier serait déjà sur la sellette. Alors, on va se poser une question simple, Martin. Alors, sur la sellette, oui, on est toujours un peu sur un fil quand on est au Paris Saint-Germain, mais est-ce que virer Galtier avant le huitième de finale retour, c'est-à-dire dans 3 semaines, serait la solution au mot du PSG?
Pour moi, ça n'aurait pas de sens. Je ne veux pas dédouaner Christophe Galtier de ses responsabilités. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a le plus choqué sur cette année 2023, c'est la première mi-temps face au Bayern Munich, où je pense que c'est peut-être l'une des pires première période du PSG en Ligue des Champions depuis que QSI est arrivé, c'est-à-dire rien, pas de supplément d'âme. On s'était dit qu'elle allait peut-être être métamorphosée par l'enjeu Ligue des Champions, là il n'y a rien eu. Et ça, c'est sa part de responsabilité, parce que c'est le système qu'il a choisi, c'est les hommes qu'il a choisi, et oui, il y a beaucoup de blessés, etc. Mais malgré tout, c'est lui qui a mis cette équipe en place. Après, évidemment, il y a tout un tas de facteurs extérieurs qu'il ne maîtrise pas, dont on savait déjà qu'ils allaient être des énormes soucis pour le Paris Saint-Germain et pour sa compétitivité. Je pense à la Coupe du Monde qui a fait dégoupiller Neymar et Lionel Messi. Je pense aux blessures de Mbappé et d'autres, Renato Sanchez, Mukiele, qui, même si c'est des joueurs secondaires, réduisent quand même les options de Christophe Galtier et qui l'empêchent de mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Le groupe le suit. Donc pour moi, ça, c'est un point essentiel parce qu'il n'y a pas de nécessité pour moi à revitaliser le groupe, à donner une nouvelle impulsion, parce que il n'y a pas de fracture entre Christophe Galtier et ses joueurs, et bien au contraire, je pense que de couper la tête de Galtier, je ne suis pas sûr que ça mettrait les joueurs dans une meilleure disposition. Après, il a plein de défauts, mais est-ce qu'il y aurait franchement un déclic psychologique si Galtier s'en va? Non, c'est pas le club qui joue le maintien, qui a besoin d'un déclic psychologique, qui a besoin d'être mobilisé. Non, c'est pas ça le problème du Paris Saint-Germain. Le problème du Paris Saint-Germain, il est autre. Il est dans les têtes de Neymar, de Messi, il est dans le niveau de certains joueurs, mais il n'y a pas besoin de déclic psychologique. Et généralement, quand on vire un entraîneur en cours de saison, c'est qu'on a besoin d'un électrochoc. Ce groupe, il n'a pas besoin d'électrochoc, parce que je pense que ça peut très bien se passer à Munich si Mbappé est en pleine possession de ses moyens, si Galtier récupère certains de ses blessés. Je pense que le PSG peut se qualifier avec Christophe Galtier à sa tête. Et à mon avis, ce serait une erreur de s'en séparer avant ce huitième de finale retour.
C'est vrai que les 15 dernières minutes ont un peu changé la donne. Alors évidemment, pas en profondeur, parce que ça ne fait pas oublier les 75 premières qui sont catastrophiques, du moins l'heure avant Kylian Mbappé sur le terrain. Mais n'empêche que, vu la tronche du match à ce moment-là, on peut se dire que ce qu'ils avaient fait, notamment, je crois que c'est en 2021, le quart aller, de jouer dans la profondeur et de défendre le but, c'est possible avec une équipe comme ça, c'est jouable parce que Mbappé. Maintenant, comme tu as dit, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux métiers difficiles en France, il y a entraîneur du PSG et ministre du Travail. Voilà. C'est les deux pires postes à occuper. Mais je pense que oui, lui couper la tête, ça ne servira à rien. Parce que pour mettre qui? Alors, vous allez me dire Zidane, ok. Mais en fait, je pense que le vrai problème le plus profond, pour faire le lien avec le sujet de la semaine dernière, il n'est pas là. Tu parles de la Coupe du Monde pour Messi et Neymar, qui leur aurait coupé les jambes. Ben moi, j'ai l'impression...
La tête, moi, j'ai l'impression,
paradoxalement, qu'elle aura redonné des jambes avant. C'est-à-dire que si vous élargissez le spectre, la saison dernière de Neymar et de Messi, bof, bof, bof. Là, il y a eu la perspective de la Coupe du Monde. Donc, pendant 3 mois, ils se sont motivés sur un objectif. Et j'ai l'impression, finalement, que la vie a repris son cours. Et la seule...
Oh, t'es dur, quand même. T'es dur.
Bah, il met 6 buts en Ligue 1, Messi, l'année
dernière.
Oui, mais,
ouais, bon,
ouais, mais si tu tires le fil, tu te rends compte qu'il y a une saison avant qui n'est pas terrible et la suite qui n'est pas terrible. Donc, finalement, oui, ils étaient motivés parce qu'il y avait le Brésil, parce qu'il y avait, avait l'Argentine. Ouais. Et je pense que, encore une fois, ils arrivent en bout de course. Et s'il y a quelqu'un, aujourd'hui, à virer, alors évidemment on ne vire pas les joueurs en cours d'année, mais c'est plutôt ce qu'il y a sur le terrain, parce que je suis d'accord avec toi, leur première heure est catastrophique, mais n'empêche que la stratégie elle est simple, entre guillemets, de Galtier, et s'il a fait une erreur sur cette première heure de jeu, c'est de ne pas avoir mis les hommes qui correspondaient à cette stratégie. C'est sûr que si tu veux défendre, attendre, et que tu as Neymar et Messi, tu n'es pas le mieux placé. Voilà. Moi, mon conseil à Galtier, c'est comme tu as dit, il est bien avec les joueurs, ça se passe bien, mais il y a un moment, je pense qu'il va falloir couper des têtes. Et notamment une, parce que ça ne marche pas de toute façon.
Oui, mais alors c'est toujours pareil, tu coupes des têtes, tu coupes Neymar, parce que toi c'est ouais. Neymar que tu as dans le pif depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps.
Qu'est-ce qu'il a fait depuis le match ?
Non, mais voilà. Non,
il allait jouer au poker, il allait manger au McDo.
Oui.
Bravo.
Non, mais tu vires Neymar. Mais si sur le blanc, tu avais une option qui te permettrait d'être plus compétitif, et si j'avais cette conviction-là, c'est-à-dire ouais, s'il y avait un mec sur le banc où tu te dis putain quand même. Mais. À cause de Neymar, le mec, il peut pas jouer, il peut pas s'exprimer complètement. Mais c'est pour faire rentrer qui ? Soler ?
Non, mais.
Et Kitike ?
Non, mais.
Pour renforcer ton milieu avec Fabien Ruiz ?
Je suis en partie d'accord avec toi, un détail près, c'est-à-dire que tant qu'ils n'essaieront pas.
Ils ont essayé ! Non, sans Mbappé n'était pas là.
Non, mais là, c'est différent, c'est Mbappé. Mbappé, lui, c'est différent.
Oui, mais ils ont tous eu leur chance.
Non, mais.
Tout le casting de l'été qui est raté.
Sortons un des trois devant. Donc. Pourquoi pas Neymar ?
Ouais, pourquoi pas.
Avec un autre système, et peut-être que ça fonctionnera mieux. Encore une fois, le football, ce n'est pas une affaire d'individualité, c'est aussi parfois une affaire de connexion entre les joueurs, de système, la fameuse addition par la soustraction. Moi, je pense qu'à un moment, en tout cas, si Galtier tient à sa tête et vraiment à son avenir au PSG, il y a PSG-Lille dimanche, il change quelque chose. S'il repart exactement avec les mêmes, c'est qu'il n'a rien compris et que ce n'est pas la peine d'aller dire en conférence de presse « Ah oui, je lui ai dit ce que j'en pensais » parce qu'à un moment... On en parlait aussi la semaine dernière, les paroles. Ouais, mais c'est les actes. Donc, à un moment, je pense que même si tu n'as pas envie de condamner un joueur parce que ça n'existe pas, bah, c'est de marquer le coup. Tu es au lendemain du Bayern, tu vas jouer au poker à la rigueur. Mais en plus, c'est de la provocation, la photo dans le fast-food. C'est pas possible. Et bah, tu lui coupes la tête sur un match. Faut sanctionner, sinon ça ne marche pas, les joueurs ne t'écoutent pas.
Alors, Galtier a dit ça, effectivement, qu'il a dit qu'il lui avait dit les choses, mais il a aussi dit pour faire des choix. Il faut avoir le choix.
Ouais,
alors, mais non, mais Maxime,
est-ce que dimanche il n'a pas le choix là ?
Non, mais t'as quand même des blessés. T'as Renato Sanchez qui devait faire partie de la première rotation du Paris Saint-Germain au début de saison. Aujourd'hui, alors il n'a pas été bon depuis quand il jouait, mais aujourd'hui il n'est pas là. Donc c'est lui pour moi la première option derrière ces mecs-là. Moi, ce qu'on peut reprocher à Christophe Galtier, parce que pour moi c'est un duo avec Luis Campos. C'est Luis Campos qui a mis Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, et c'est l'échec de leur politique sportive qu'ils incarnent finalement presque tous les deux, parce qu'ils ne font qu'un, Campos et Galtier. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule option, tu le dis, c'est attaquer la profondeur avec le Paris Saint-Germain. Et moi, ce que je lui reproche, c'est de ne pas avoir d'autres cordes à son arc. Ce que je reproche à Luis Campos, c'est son recrutement raté. Et tout ça, c'est imbriqué. Et ce qui fait que Galtier, il met des milieux centraux que sont Zaïre Emery et Soler sur les ailes face au Bayern Munich. Et ça aussi, c'est sa responsabilité. Donc voilà, sa responsabilité, pour moi, elle est là. Après,
3-5-2.
Ouais, mais 3-5-2, mais pas avec 3 centraux.
Bah oui.
Mais tu mets qui ? Kimpembe ?
Mais à qui la faute ? Enfin, un moment. Enfin, si le Paris Saint-Germain se plaint de ça, tous les clubs de Ligue 1 sont à la ramasse. Moi, j'ai vu une équipe contre le Paris Saint-Germain il y a une semaine qui avait un manque de centraux, qui a trouvé un joueur qui pouvait jouer central qui s'appelle Valentin Rongier. Alors, bah oui, Valentin Rongier, c'est moins glamour. Ça n'a pas le niveau du PSG a priori, sauf que ça aide. Donc, il y a quand même une grosse erreur dans le recrutement.
Mais ça, de toute façon, c'est. Une grosse part de responsabilité de Galtier, pour moi, sa plus grande responsabilité, c'est de ne pas trouver de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B
mais
dans le jeu.
Je ne sais pas s'il le cherche, en fait.
Il n'y a pas de plan B à partir du moment où un mec n'est pas là, en l'occurrence Kylian Mbappé, puisque finalement, ton plan A, Ekitike ne rentre pas dedans, puisque la profondeur Ekitike, on sait très bien que ça ne marche pas. Il était en train de flinguer Ekitike dans un système de jeu qui ne correspond pas à ce que tu veux faire. Donc là aussi, il y a un problème de casting avec lui. Voilà, sa responsabilité, elle est là. Elle est partagée avec Campos. Après. franchement, s'en séparer, ça changerait absolument rien.
Non.
Ce qu'il faut faire, bah, qu'ils croisent les doigts très fort, qu'ils mettent la petite couette à Kylian Mbappé à 21h après avoir bu sa petite tisane, qu'il, voilà, qu'il espère que, qu'il n'arrive rien à Kylian Mbappé parce que c'est le seul qui peut sortir le PSG de l'ornière. C'est le seul.
Et moi, je le répète, comme la semaine dernière, je pense qu'une équipe avec Mbappé, et 10 soutiers derrière se porterait beaucoup mieux.
Peut-être.
Parce que tant qu'à attaquer la profondeur, l'histoire de la dépendance à Mbappé, on est toujours dépendant aux grands joueurs. Donc peu importe, ça, c'est, pour moi, c'est une connerie de dire il faut juste que ce ne soit pas du 95% dépendance, voilà, de réduire cette dépendance. Et je pense que la manière de le réduire. Enfin, j'ai lu quand même cette semaine dans l'équipe que Messi et Neymar ne comprenaient pas qu'on donne les clés à Mbappé. Il dit nous, on est quand même là. Ouais, bon, voilà, quand on en est là, c'est qu'il y a un problème. Ça, ils ne voient pas sur le terrain qu'aujourd'hui, il y a une différence.
En tout cas, Galtier pourrait être le troisième entraîneur viré en cours de saison. Le premier avait été Antoine Comboiré. Le deuxième avait été Thomas Tuchel. Comboiré, parce qu'il ne collait pas au prestige du, nouveau, du nouveau modèle parisien boosté par les fonds qataris. Donc, ils l'ont dégagé pour mettre Carlo Ancelotti. Ensuite, ça a été Thomas Tuchel au cours de l'hiver 2020. Donc,
le 23 décembre, enfin, dans la nuit du 23 au 24.
Voilà, donc quelques mois après la seule finale en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une incompatibilité d'humeur avec sa direction et en particulier Leonardo. Là, au moins, on a l'impression quand même qu'il y a, que ce soit les joueurs ou le directeur sportif, on a l'impression qu'il y a quand même une unité dans ce Paris Saint-Germain. Alors, voilà, les esprits chagrins diront une unité dans la médiocrité. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils font corps. Et ça, c'est un vrai argument pour Galtier.
Ouais, et puis, comme tu as dit, les deux exemples de Tourelle et de Comboiré, c'est des entraîneurs qui sont virés l'hiver, enfin à la trêve en gros. Mmh. Donc, jamais en cours de saison, jamais en trop de matchs. Et c'est sûr que le. Enfin, encore une fois, et puis le symbole de le virer, c'est-à-dire que ça remettrait en cause tout ce qui a été changé l'été dernier et qu'on avait salué globalement. C'est-à-dire qu'on arrête le bling-bling, on va prendre quelqu'un qui est cohérent, j'allais dire footballistiquement, dans son idée du jeu, qui se révélait pendant assez longtemps. On avait l'impression d'être un anti-Pochettino, parce que Pochettino, c'est vraiment ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, ça ira mieux demain, et ça n'a jamais été. Là, on a l'impression de quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, mais moi, ce que je reprocherais vraiment à Galtier, c'est de le prendre par les cornes en conférence de presse.
Oui, c'est vrai.
Et de ne pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment, je le répète, ce qu'il a dit sur Neymar, ça peut pas être, il ne peut pas y avoir une caresse derrière la petite gifle. Ce n'est pas possible.
On passe à notre deuxième sujet, Maxime. Ouais. Tu as tout dit sur le Paris Saint-Germain. Oui. Hein, tu as été plutôt brillant, comme d'habitude. Mais la présence de ta fille, je pense, là, tu es top grade. Tu mets le niveau au-dessus encore. Hein. Tu veux l'impressionner. Hein. Si tu veux l'impressionner.
Voilà, je vais te dire.
Et si tu veux voir la fierté. La fierté dans les yeux de ta fille, Maxime, que quand tu coupes le micro, elle se dit « Putain, ça, c'est mon père, j'y crois pas, quoi. Oh, » incroyable. Bon, on passe au deuxième sujet. J'espère que tu vas être aussi bon, Maxime. Et on va passer à Arsenal. Arsenal qui a perdu mercredi face à Manchester City dans le match le plus important de la saison en Première Ligue. Une défaite 3-1. Au 31 décembre, Arsenal avait 7 points d'avance sur Manchester City. Et aujourd'hui, donc, on est combien ? On est le 17 février. Ouais. Manchester City mène la danse, a repris les commandes avec Hugo Lavérage, avec un match en plus, certes. Mais cette question qu'on peut se poser, Maxime, est-ce que Arsenal a d'ores et déjà perdu le titre en Première Ligue ?
Alors, c'est difficile à dire parce que c'est toujours la question des séries, des momentums. C'est-à-dire qu'il y a eu un momentum d'Arsenal qui a été très long, dont on a peut-être pensé qu'il ne durerait pas aussi longtemps en première partie de saison. Et là, c'est sûr que j'ai même compté 8 points d'écart entre les deux en un mois. C'est-à-dire qu'il y a un mois, City avait 8 points de retard. Depuis, Arsenal a dégringolé. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué dans le match de mercredi, alors qu'il n'était pas le sommet dont on rêvait, parce qu'évidemment, il avait un peu occulté les deux matchs de Ligue des Champions, Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea, mais ça n'a pas été un sommet de jeu et d'envoler à l'anglaise qu'on imagine avec l'intensité. Mais quand même, moi, ce qui m'a marqué, encore une fois, c'est comment Guardiola a eu l'intelligence de prendre Arteta à son propre jeu. J'ai vu un Arteta qui s'est... C'est sa force de s'entêter, c'est-à-dire de ce qu'il fait depuis le début, parce que même les dirigeants d'Arsenal qui lui font confiance, et c'est aujourd'hui payant. Guardiola qui a laissé le ballon à Arsenal. Guardiola qui a décidé avec Ederson d'allonger le jeu, ce qui n'est pas non plus une évidence. Alors ils le font, on caricature tout le temps de dire qu'ils repartent de l'arrière, mais ils savent aussi allonger avec la qualité de pied d'Ederson. Mais là, ils l'ont fait tout le temps et ils ont à la place pressé. Et en gros, les buts, quasiment tous les buts, viennent d'erreurs individuelles,
grosses erreurs
ou de pressing réussi. Donc là, c'est une masterclass de la part de Guardiola. Comme tu as dit, il y a un match de différence. Il y a un match retour parce que ce match-là, c'est un match qui devait avoir lieu au moment des obsèques de la reine. Donc, il a été retardé. Donc je ne dirais pas qu'Arsenal a perdu le titre, mais c'est sûr qu'il va falloir aller très 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 vite à se relever, parce que je l'ai dit, c'est un momentum et il ne faudrait pas que ça se prolonge trop longtemps, parce que City, évidemment, quand on regarde les deux rapports de force entre les effectifs, évidemment Arsenal, ça ressemble plus à 11, même s'il y a des solutions qui se créent de plus en plus parce que l'équipe grandit. On voit bien que City a quand même beaucoup plus de solutions, ne serait-ce que le symbole d'avoir mis Silva arrière-gauche, et qu'il peut faire un peu ce qu'il veut avec son équipe, qu'il a plus de solutions pour aller loin.
Pour moi, il y a trois gros problèmes qui... Alors, si Arsenal n'est pas condamné, franchement, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'en relever. Il y a trois problèmes. Alors, je vais aller du plus mineur au plus majeur. Le premier problème, moi, c'est que je vois un problème physique, c'est-à-dire que c'est une équipe qui tire assez nettement la langue, et tu le dis parce que finalement... il y a moins de turnover qu'à Manchester City, et donc au bout d'un moment, dans un sprint final, ça peut compter. Le deuxième, c'est l'absence de Gabriel Jesus, quand même, et pour moi, le vrai souci de ce match-là, ça a été la décision dans les surfaces de réparation. Quand on parle de ça, l'absence du Brésilien compte. Et le problème principal, pour moi, c'est Arsenal qui est en train de prendre conscience qu'ils peuvent être champions, et l'enjeu qui est en train de leur ficher la trouille. Les trois buts, c'est trois cadeaux. Ça dit quelque chose quand même de ce qui s'est emparé, de ce qui est en train peut-être de manger la tête des joueurs d'Arsenal. La passe en retrait de Tomiyasu, donc sur le premier but, alors vous me direz après Arsenal a égalisé, mais pour moi c'est symptomatique, ça m'a un peu fait penser à la glissade de Gérard. Et ça peut être un des tournants de la saison en Première Ligue. Et on voit, peut-être qu'on surinterprète, mais comme par hasard c'est arrivé face à Manchester City, c'est quand même un des symboles de... l'effondrement, en tout cas émotionnel, d'Arsenal depuis quelques semaines, parce qu'avant City, il y a eu Brentford, il y a eu Everton, ils ont pris qu'un point sur ces deux matchs-là. Et moi ça me fascine toujours, parce qu'on a des staffs qui sont pléthoriques, les joueurs, c'est des Formule 1, ils sont réglés au centimètre près, tu te dis que rien ne peut les toucher, mais finalement, ça peut rattraper même ces équipes-là. Ouais. La trouille, tout simplement, la trouille. Il y a combien de champions dans cette équipe d'Arsenal? Combien de joueurs qui ont l'habitude de gagner? T'as peut-être Gabriel Jesus avec Manchester City, t'as Zinchenko peut-être, mais sinon c'est des joueurs qui finalement ont assez peu gagné ou n'ont pas gagné du tout. Et quand tu perds un matelas de 8 points en 40 jours, ça dit quand même quelque chose. Et pour moi, les dynamiques, elles sont trop opposées aujourd'hui pour que Arsenal arrive à rattraper le fil.
C'est vrai que City, surtout dans la situation qu'ils connaissent la mieux, c'est-à-dire être en tête du championnat, oui, déjà, ça n'aurait plus arrivé depuis 5 novembre.
Ils sont en pantoufles.
On n'a pas senti une panique. On n'a pas senti non plus, Alors, Arsenal, je pense, comme tu le dis, ils peuvent être rattrapés par ça. Mais on sentait pas non plus une euphorie incroyable. Mais c'est vrai que City n'a jamais paniqué, avancé à son rythme. Après, ce que peut espérer Arsenal, c'est évidemment qu'il y ait des pépins du côté de City. Il y a la Ligue des Champions qui peut bouffer un peu d'énergie, mais c'est vrai que...
Ouais, mais ils sont en Coupe d'Europe aussi, Arsenal, encore.
Sur le papier, ouais. Mais sur le papier, tu as le côté quand même de dire, City dans sa position connue, et on ne le dit jamais assez, mais la tête, ça compte évidemment presque autant que les jambes, parce que si ça ne fonctionne pas en haut, ça a du mal à fonctionner en bas.
Et il y a autre chose qui m'a fait dire ça, c'est le discours d'après-match d'Arteta. Donc, on s'attend à ce qu'ils nous disent quand même, c'est vrai. Non, là, il dit... il surjoue pour moi. Il dit ce match, ça me conforte encore plus. J'ai encore plus l'impression qu'on va être champion après ce match-là. Donc, après une défaite face à un adversaire direct. Ça vise qui? Ça vise ses joueurs. Parce qu'il veut regonfler le moral. Je pense qu'il sent que son vestiaire s'est un peu dégonflé. Que la course au titre va être de plus en plus difficile. Donc, il surjoue et il nous dit non, mais là, les gars, ils ont été extraordinaires. Ils ont été fous. Ils sont dingues. Ils sont super bons. Là, on a regardé City dans les yeux. Je suis encore plus confiant. Voilà, c'est un discours adressé à son vestiaire qui, pour moi, est trop gros pour être vrai.
Mais c'est cette confiance dans les mots et cette confiance sur le jeu, c'est un peu la force et la faiblesse d'Arsenal. C'est-à-dire que, encore une fois, la caricature de la fin où ils essayent toujours de jouer au sol, de ressortir le ballon, alors que ça devient douloureux à un moment parce qu'ils sont cramés, City fait le job sur le pressing, donc on voit que ça ne va pas, mais n'empêche, ils s'entêtent. Et en fait, c'est un peu aussi l'histoire de l'Arteta depuis ces dernières années. C'est-à-dire que, et c'est ce qui a fait que Arsenal en est là, c'est qu'il croit en ses convictions, qu'il va au bout. Donc voilà, des fois, ça a ses limites. Ça sera aussi peut-être dans une forme d'adaptabilité que Arsenal pourra trouver son salut d'ici la fin de la saison.
Allez, on va terminer cette émission avec l'équipe de France et Olivier Giroud. Olivier Giroud, qui a annoncé cette semaine que lui, il n'avait aucune intention de raccrocher le maillot bleu. Raphaël Varane, Hugo Lloris et Karim Benzema ont mis un terme à leur carrière internationale. Et Giroud nous a dit, lui, cette semaine, je ne suis pas prêt à accrocher, à enlever ce maillot bleu. J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Alors Maxime, Olivier Giroud a 36 ans, 120 sélections pour 53 buts. Est-ce qu'il a raison de s'accrocher comme ça, Olivier Giroud ?
Bah, en fait, c'est marrant parce que les trois qui ont arrêté leur carrière internationale, donc Karim Benzema, pour les raisons que l'on sait, qui sont pas complètement sportives, il y a aussi une forme de désaccord avec ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde. Lloris, parce qu'il a 36 ans, que ça l'a, on va dire, j'allais dire plombé, qu'il est là depuis 2008 et qu'à un moment, on a senti la chape de plomb qu'il avait sous ses épaules. Et Varane, qui avait aussi, en plus jeune, ce côté aussi fatigue mentale, fatigue physique, un peu trop plein, on va dire. Mais Giroud, finalement, je pense qu'il ne jouera jamais le match de trop. Pourquoi ? Parce que Giroud, il n'est pas bâti comme les autres. C'est-à-dire que Giroud, on le répète, à 25 ans, il arrive en équipe de France. C'est pas un joueur, c'est pas un bébé des Bleus qui est arrivé à 18, 19, 20 ans, 21 ans. Il a 120 sélections, 53 buts. Et en fait, je pense qu'il va avoir envie de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Parce que le match de trop, finalement, si tu prends les 12 ans de Giroud en équipe de France, tu as l'impression qu'il l'a joué 3-4 fois. Mais qu'à chaque fois, il est de retour. Donc lui, il croit en lui et il a envie de croquer tant qu'il peut. Et en même temps, je peux comprendre parce que justement, il n'a pas été construit comme un Varane. Varane, à 17 ans, on sait qu'il va être bon. En 2013, il arrive en équipe de France et à 29 ans, il se dit « j'arrête ». Et je serais vraiment étonné qu'il revienne. Giroud, lui, il dit « bah non, moi, on ne m'a pas donné ça au début, je n'avais pas ce talent-là ». Ben, j'ai envie de continuer parce que j'aime ce maillot, il lui doit beaucoup et puis voilà, il est meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il dit qu'il y a Mbappé qui arrive, s'il peut prolonger un peu le temps en tête du classement des buteurs, ça serait pas mal.
Oui, pour moi, il y a deux raisons. Il y a celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais repu et je pense que Giroud faudra le foutre à la porte. Il prendra jamais la porte de lui-même en équipe de France, ça c'est une certitude. Je ne dis pas que c'est pas difficile que ça n'a pas été difficile pour Varane, Lloris de rester au très haut niveau. Mais c'est vrai que Giroud, il a dû se battre depuis le début. Donc, je pense qu'il est aussi plus conscient de la chance qu'il a qu'il a été moins préparé. Et puis, il y a une deuxième chose pour moi, c'est que tous ceux qui sont... Enfin, Lloris et Varane, ils sont partis, ils ont fait ça proprement. C'est-à-dire que Lloris, il a attendu qu'il y ait un successeur. C'est Mike Maignan qui va prendre la succession. Il est préparé. Il est plus très loin d'Hugo Lloris, en tout cas en termes de niveau. En termes d'histoire en équipe de France, il en est encore très loin, mais en termes de niveau. Raphaël Varane, c'est pareil, à l'embarras du choix. Vous pouvez prendre, j'allais dire, 10 défenseurs centraux, j'exagère un peu, mais bon, entre les Upamecano, Konaté, Saliba, Fofana, bon, j'en oublie encore. Donc, il y a de quoi faire. Olivier Giroud, il s'arrête aujourd'hui. Déjà, donc il a avancé en équipe de France et sa retraite internationale, s'ajouterait à celle de Karim Benzema. Donc, c'est deux au même poste. Donc là, on aurait quand même un gros problème pour l'équipe de France. Parce qu'il y a qui derrière ? Il y a Colomoigny, il y a Marcus Thuram. Ouais, d'accord, ils ont fait une bonne finale de Coupe du Monde. Enfin, c'est incomparable avec le vécu. On ne sait pas ce qu'ils peuvent donner sur le long terme, même si Colomoigny fait une extraordinaire saison du côté de la Bundesliga. Ça demande confirmation. Et finalement, je pense que le poste d'avant-centre est sans doute le poste où il y a le moins de profondeur avec ceux des latéraux en équipe de France. Donc, il se dit qu'aussi, finalement, la concurrence est encore un peu derrière, puisque Mbappé, je pense qu'on peut oublier l'axe pour Mbappé vu la Coupe du Monde qu'il a fait à gauche. Je pense que là, le débat est terminé. Donc finalement, à ce poste, vrai poste de numéro 9, Giroud est un peu tout seul. Il y a une petite concurrence, mais qui est encore très légère, contrairement à Lloris et Varane. Il ne sent pas que les jeunes poussent forcément dans son dos. Donc il reste, et ça se comprend.
Oui, et puis ça se comprend aussi parce qu'il est au niveau.
En plus,
mais pas de raison.
Même si son début d'année 2023 avec Milan, c'est compliqué.
Mais on est aussi dans une ère où les joueurs.
Oui, mais tu pourrais dire que Varane aussi.
Oui, mais Varane, il a cette fatigue mentale. Mmh. Il l'a dit, donc je pense que lui, il a vraiment fatigué. Giroud, lui, n'est pas fatigué parce qu'il a démarré aussi plus tard à très très haut niveau que les autres. Donc je pense qu'en effet, il a encore envie. Puis bon, Mbappé serait peut-être content d'avoir un pivot encore devant lui, ce serait pas mal. Mais la question qui se pose.
Alors.
Parce que c'est bien beau de vouloir venir, mais encore faut-il que la porte soit ouverte.
Bah oui, mais si, je vois pas pourquoi Deschamps ne l'appellerait pas là.
Ah ben je sais pas.
Il y a plus Benzema.
Oui, mais tu peux te dire aussi qu'il a 36 ans et que Deschamps repart sur autre chose.
Bah, c'est vrai que l'Euro, du coup, c'est dans 2 ans, donc il en aura 38 a priori. Ouais. Si mes calculs sont bons, 36 plus 2, ça fait 38. Je regarde les stagiaires de 3e, 36 plus 2, 38, c'est ça ? Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas de matheux là. Mais...
Il a fait journaliste. Hein.
Et c'est vrai que la prochaine Coupe du Monde, qui est quand même l'objectif majuscule de... Enfin voilà, tout ce que va faire Deschamps, ça vise la Coupe du Monde. Cela dit, pourquoi pas 40 ans, Giroud ? Pourquoi pas ?
C'est dur quand même. Mais...
C'est dur, mais vois, Zlatan, il baisse pas de niveau. Hein.
Zlatan, on est... Oui. On est sur une fin quand même. 40 ans, ce sera très fort. Mais je pense que...
40 ans,
il ne s'interdit rien.
Tu pourrais être en équipe de France.
Je pourrais être en équipe de France.
Il y a un petit déficit physique, je pense.
Mais je pense
très léger.
Mais je pense qu'il ne s'interdit rien.
Ah oui, mais je pense...
je suis pas sûr qu'il dise je vais être aux États-Unis, mais je pense que pour lui l'euro. Et puis bon, je peux comprendre encore une fois, rien ne lui a été donné, il est arrivé tard, ça restera la grande histoire de sa vie, l'équipe de France. Pourquoi renoncer ?
Il s'est fait tout seul, comme toi un peu Maxime, tout seul.
Pareil.
Il est arrivé, Maxime, il faisait les photocopies à Eurosport. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige toute la stratégie digitale de Eurosport. Ouais, faut quand même imaginer ce qu'est devenu Maxime Dupuis. Franchement, le mec est tellement puissant qu'il peut amener sa fille dans le coup pour un stage de troisième.
Mais alors, tu sais ce que
la puissance du gars.
Tu sais ce que je te souhaite ?
D'amener mon fils ici ?
Ouais.
Jamais de la vie. Ah non, parce que moi, ce serait l'enfer. Là, là on pourrait pas tourner. Là.
Non, mais à 14 ans, il serait quand même plutôt stable.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr qu'il soit si sage que ta fille, en tout cas, qu'on n'entend pas. Elle est bien élevée. Hein.
Je
pense que ça vient de sa mère. Moi. Je pense que ça vient de sa mère. Eh ben, on a fait le tour, je crois, Maxime, là.
Ouais, je pense qu'on a fait le tour.
On termine là-dessus ?
Bon, oui.
Tu veux dire quelque chose, Zef, peut-être, à nos auditeurs ?
Jamais de la vie.
Quoi ? Parce que j'imagine ceux qui écoutent là le podcast, déjà donc on a eu le teasing la semaine dernière sur la fille de Maxime, mais ils rêveraient de voir, ils rêveraient d'entendre ta fille. Ça restera une ombre en fait.
C'est ça.
Voilà, une sorte
que...
Peut-être qu'elle prendra ton relais un jour.
C'est jamais.
Oh, je passerai d'un Dupuis à une autre. T'imagines dans 5 ans là, la stream team Eve Dupuis et Martin Mosnier. Oh, mais je pense que ça me ferait du bien. Surtout possible. À toi, ça te ferait du bien, Maxime. Parce qu'à un moment, bah, quand t'arrives au bout du chemin, faut se recycler. Hein. À un moment donné, Maxime. Bon, bref.
Faut partir au bon moment, comme Olivier Giroud.
Ouais, ouais, voilà. Faut pas faire le match de trop. Toi, la stream team de trop, tu l'as fait et c'était il y a 3 ans. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, a priori. Ah non,
pas la semaine prochaine.
Mais... Parce que Maxime, tranquillou.
Ah bah attends.
Il est en Afrique, tranquillou, non, Maxime. Non. Allez hop, il va faire son petit voyage, tranquille.
Attends, tu seras pas en Afrique toi aussi ?
Si, je serai en Afrique aussi, mais pas avec toi.
Ouais. J'ai envie de penser à ça.
Non, bah oui, bah oui.
Mais qui fait l'émission la semaine prochaine ?
Alors, je
vais découvrir en direct, parce que j'avoue que je ne m'en rappelle plus.
Eh bah, ce sera notre stagiaire de troisième, ils sont pas au courant encore.
Très bien, voilà, ils préparent les sujets.
Bah voilà.
Alors, 3 mars, c'est ça ?
Ouais, 3 mars.
Donc ce sera...
Personne ?
Bah tu seras rentré ?
Ah non, je suis pas... Non, c'est la semaine d'avant, c'est le 26 février.
Là, c'est la fin d'émission. La fin d'émission la plus laborieuse de l'histoire.
Cyril, il n'y a ni Maxime ni moi. Voilà, c'est un peu comme si tu prenais l'attaque du PSG, que tu prenais le PSG, que tu enlevais Mbappé et Messi, quoi, en gros, globalement. Je suis Mbappé plutôt.
Toi, t'as visé Neymar.
Mais non, bah,
c'est pas moi.
Ou alors, comme si. Bon, bref, on va pas. Hein, voilà, on a compris. Et bah, bonnes vacances,
bonnes
Maxime.
Vacances, bonnes
amuse-toi
vacances,
bien.
Écoute, hein,
fais pas trop de folie de ton corps. Reste quand même calme. Voilà. Et reviens tranquillou dans
toi
2 semaines, du coup.
La même pour toi.
Parce que moi, je prends qu'une semaine. On voit la différence de hier.
Moi aussi, je serai là dans 2 semaines. Merci. Allez, à la semaine. À dans 2 semaines.
À dans 2 semaines. Ciao, ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.